Vous avez aimé la louange ? J'aime la louange. Et pendant qu'on louait, j'étais en train de me dire, Seigneur, tu sais quoi ? Je me souviens le temps où je ne te connaissais pas beaucoup et où j'allais vraiment, où je ne savais même pas comment te louer. Tu étais là et moi j'étais ici, on était séparés. Et je me suis souvenue ensuite du temps où je venais juste d'accepter Jésus dans ma vie et j'osais à peine louer Dieu parce que j'étais tellement consciente de mes manquements. Et puis plus j'ai connu sa parole, plus je l'ai connue et au fur et à mesure, et ce matin je me disais, Seigneur, tu sais quoi ? Je raffole de pouvoir me présenter devant toi tel que je suis. C'est-à-dire, tu peux tout lire en moi, je n'ai rien à cacher. Est-ce que ça veut dire que je suis parfaite ? Dans le naturel, non. Et il y en a qui vont dire, bah ouais, ça on le sait. Mais, eh ben oui. Mais bon, moi je le sais aussi, donc ça va. Mais voyez-vous, je me souviens, vivre avec Dieu est une relation. Et je me souviens de ce temps où j'osais pas. Et aujourd'hui, j'apprécie tellement le fait d'être dans une église et dire, Seigneur, j'ai rien à cacher. Tu peux tout changer en moi. À vrai dire, je m'attends à ce que tu changes des choses en moi. Et pourquoi ? Parce que je sais que Dieu n'est que bon. Que bon. Vous savez, je suis persuadée que si on faisait un sondage dans les rues, et je dois dire même dans les églises, et si on demandait aux gens, mais dis-moi, qui est Dieu pour toi ? Ou qu'on leur demande... D'après vous, qui est-il ? Je suis désolée, mais je suis pertinemment persuadée qu'on n'aurait pas un vrai descriptif de Dieu. Je suis certaine que l'on entendrait, bah, Dieu, wow, c'est un vieux monsieur avec une longue barbe qui flotte sur un nuage. Ça, ce serait le moins pire, presque. Mais on entendrait il est dur. Il est exigeant, il réclame, il punit, il est froid. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? Je pense qu'on entendrait beaucoup d'une connotation négative vis-à-vis de Dieu. Je suis certaine aussi que peu pourraient dire ce que disait David. Regardez avec moi en psaume 59, 17. Mes amis, on est riche de le connaître. Psaume 59, 17 nous dit, et c'est David qui parle, et David qui parle, pas un jeune homme, David, un homme mature qui avait tout à cette disposition, à vrai dire qu'il n'avait pas besoin de grand-chose à l'endroit où il était. Mais David dit, et moi je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Et il y a d'autres versions qui disent, je ferai retentir dès le matin la louange de ta bonté. Ça veut dire qu'il n'était pas profil bas, il n'était pas timide. Il voulait que la bonté de Dieu soit proclamée. Une autre version dit, je louerai dès le matin à haute voix ta gratuité. Wow ! Combien de gens approchent Dieu, ont cette idée derrière la tête que finalement avec Dieu c'est donnant, donnant. On fait le deal, c'est-à-dire qu'il faut que je lâche quelque chose pour obtenir quelque chose de lui. Et notre ami David dit, fait un parallèle entre la bonté et la gratuité. J'ai trouvé ça très intéressant. Et il continue et il dit, « Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Alors ça m'a intriguée, je me suis dit, « Tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire la bonté ?» J'ai regardé dans le dictionnaire et la définition de la bonté, c'est une qualité d'une personne bonne, portée à considérer, à traiter les autres d'une façon favorable, en s'abstenant de leur nuire, et surtout en œuvrant pour l'épanouissement vital aux dépens même de ses propres intérêts. Ce que nous dit la Bible, ce que nous dit ici la Bible, c'est marqué. Je veux dire, toutes les choses qui sont dans la Bible ont été mises pour notre enseignement. Et la Bible nous dit que il est bon, je célébrerai ta bonté. Ça veut dire que Dieu considère et porté à nous considérer, à nous traiter d'une façon favorable, sans, en s'abstenant de nous nuire. Mes amis, combien de gens, dans le fond, pensent que d'une manière ou de l'autre, marcher avec Dieu, ça a un souci parce que ça va nuire à la qualité de ma vie, à la qualité de mes relations, à la qualité de ma carrière. Or, la Bible nous dit ici que c'est la bonté de Dieu. La bonté inclut le fait qu'il ne va pas nous nuire. Et surtout, qu'il va œuvrer pour mon épanouissement vital. Mes amis, vous me prenez il y a quoi, 25 ans et vous me prenez maintenant, je ne suis plus la même personne. Pourquoi ? Pas parce que je suis merveilleuse, c'est parce qu'il est bon envers moi. Et Wikipédia précise, la bonté est une qualité appartenant au domaine de la morale. Cette définition me dit quoi ? Cette définition lie la bonté directement à la personne elle-même. C'est parce qu'elle nous dit que c'est une qualité de l'âme. Ça veut dire que c'est une qualité de l'âme de Dieu. C'est-à-dire qu'une personne, Dieu, dans le cas présent, a de la bonté car elle est bonne. On ne peut pas avoir de la bonté sans être bon. C'est tout simple comme définition, mais combien de gens ont peur de Dieu ? Combien de gens esquivent ? Hop, 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 hop. Combien, peut-être certains d'entre vous, Dieu vous a cherché pendant des années. Pourquoi ? Parce que dans le fond, quel est le stupide qui ne se laisserait pas trouver par la bonté ? À moins d'être convaincu que la personne qui le cherche n'est pas aussi bonne qu'elle en a l'air. C'est-à-dire que la bonté que l'on expérimente de Dieu, à vrai dire, ne fait que refléter sa personne. La bonté est révélée par les actes d'une personne, mais la bonté démontre qui est cette personne. Et c'est ce que David avait compris. David avait expérimenté la bonté de Dieu, mais ce qu'il savait plus que tout, c'est que Dieu est bon. Non seulement, mes amis, il est bon, mais la parole... Non mais attendez, c'est ouf cette histoire. Parce que la parole nous parle même des richesses de sa bonté. Et on est en train de nous faire croire que Dieu est un père fouettard qui nous attend à coups de batte pour nous faire payer le moindre faux pas. La Bible nous parle de la richesse, des richesses de sa bonté. C'est énorme! Vous savez quoi? On devrait voir les gens les plus épanouis dans les églises. Excusez-moi, mais très souvent on y voit les gens les plus coincés. Mais c'est vrai ou pas? Sauf ici. On devrait voir les gens les plus épanouis. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là savent qu'ils ont un maître qui est tellement bon. Tellement bon. Non seulement il est bon, mais la Bible, comme je vous disais, nous parle des richesses de sa bonté. Regardez avec moi en psaume 86. Et je vais vous dire, il ne nous dit pas une fois, il ne nous parle pas, bon, 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 une richesse, bon, c'est pas trop, parce que ça a été mentionné qu'une seule fois, donc c'est peut-être pas très, très clair cette histoire, il est bon peut-être parce que c'était une interprétation. Non, la Bible nous dit plusieurs fois, Dieu est bon, Dieu est bon. Psaume 86, 15 nous dit, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, écoutez bien, riche en bonté et en fidélité. Alors je me suis dit, on va pousser le raisonnement un peu plus loin. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire riche? Ça vient du mot hébreu rab, qui veut dire quoi? Qui veut dire grand, considérable, s'accroître longtemps, en abondance, nombreux, multiples, grand nombre, plusieurs, beaucoup, chef, puissant, immense. La Bible nous dit que Dieu est tout ça, il est riche. Et il est riche quoi? Il ne nous pas parlé d'argent, il ne nous pas parlé de nombre de membres qui le suivent. Il nous dit, il est riche en bonté. Et la bonté, c'est quoi? Eh bien, la bonté, en hébreu, vient du mot chesed. Excusez-moi pour la prononciation. Comment? Chesed. Qui veut dire grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, piété, compassion, bienfaiteur, aimable, clémence, éclat, bien bon. Ça veut dire que quand vous prenez les deux mots ensemble, quand il nous est dit que Dieu est riche en bonté, ça veut dire qu'il est grand en grâce, ça veut dire qu'il est considérable en miséricorde, ça veut dire qu'il est abondant en affection, ça veut dire qu'il a toutes sortes de compassion, ça veut dire qu'il est bienfaiteur, ça veut dire qu'il est puissant en clémence, j'en poussillonne. Non mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Et ce que j'ai aimé, c'est que quand il est dit riche en bonté, il a levé le terme de longtemps et de multitude. Ça veut dire que sa bonté est tellement large qu'à vrai dire, on ne peut pas la contenir ni dans l'espace-temps, ni dans la dimension. La bonté de Dieu ne tient pas dans la dimension humaine. Non seulement, alors elle est bonne la nouvelle là, mais ce n'est pas fini. Non seulement Dieu est infiniment bon, mais en plus, il n'est que bon. Amen. Regardez en Jacques 1, 17. Non, mais c'est énorme, c'est énorme. Vous ne croyez pas que les gens devraient être heureux? Les chrétiens devraient être des gens heureux? Les chrétiens devraient être des gens d'éclat, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce que l'impact de leur maître dans leur vie. Jacques 1, 17 nous dit « Tout don excellent, tout présent parfait viennent d'en haut. » Il n'est pas dit « Tous les coups de gourdin viennent d'en haut. » Il est dit « Les dons excellents et tout présent parfait viennent d'en haut, descendent du Père, mes amis. » Le Père des Lumières, il n'est pas dit le Père du gris, là, du coup, on ne sait pas trop où il se situe. Non, il est dit, il y a un mot qui le qualifie, c'est le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire qu'on revient à notre sujet, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, dans cette bonté, il n'y a aucune ombre, il n'y a aucune variation. Il y a une autre version qui dit aucune vicissitude ni ombre de changement. Il y a une autre version qui dit qui n'est pas variable et sans l'ombre d'un retournement. Ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que quand vous pensez à Dieu concernant la bonté, quand vous dites « Mon Dieu, tu es riche en bonté pour moi, tu es riche. » Rien, n'acceptez jamais qu'il y ait 3 points de suspension après ce mot-là. Quand vous vous présentez dans la présence de Dieu, n'acceptez jamais qu'il y ait juste, vous savez, ce petit doute-là, ce petit silence. N'acceptez jamais cela, parce que l'on voit qu'il est bon et il n'est que bon. Découvrir la bonté de quelqu'un a un effet sur soi, va avoir un effet. Et c'est quoi? Eh bien, c'est que plus je découvre combien il est bon, plus je vais m'attacher à lui. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, oh, ben moi, je suis trop attachée au monde. Je suis encore un pied dans le monde. Je ne sais pas dans quel sens je vais. J'aime Dieu, mais… » Ben, vous savez, attachez-vous à découvrir qu'il est bon. C'est tellement vrai que quand, vous savez, vous êtes par exemple pendant la louange, vous êtes en train de louer et que vous pensez, parce que vous louez parce que vous avez été béni, il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, ça vous a vraiment touché, et vous le louez. Avez-vous remarqué ce qui se passe? Normalement, vous commencez à le louer et immédiatement votre cœur part devant sa personne. Immédiatement, c'est-à-dire que vous allez mettre le pied sur une bonté et votre cœur ne va pas se concentrer pendant tout le temps sur la bonté, mais va vous attirer à lui. Vrai ou pas? Et c'est exactement ce qui s'est passé, à vrai dire, avec David. Parce que je ne vous ai pas donné une autre version du psaume 59, 17. Vous voulez entendre? Elle est excellente. « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. » Je répète, « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, c'est toi, tu es ma haute retraite. » Voyez-vous, David, à travers tout ce qu'il avait expérimenté de Dieu, le fait de pouvoir, il avait expérimenté quoi? Ben, il savait qu'il avait expérimenté le fait de se réfugier en Dieu quand ça avait été dur. Il avait expérimenté que Dieu était une retraite. Et le fait de découvrir que c'est que Dieu avait été bon, Dieu avait été là quand c'était nécessaire, ça avait développé de la tendresse. David n'était pas un petit gringalet qui n'avait jamais... qui avait peur de tout le monde. Non, David était un homme de guerre. Et cet homme de guerre, c'était un meneur d'hommes, David. Et David, quand il se présente devant son Dieu, Seigneur, David, tout en... Écoutez bien, mes amis. Tout en lui plié devant son Dieu. Tout en lui était, il capitulait tout devant son Dieu. Pourquoi? Par soumission. Oh, c'était une soumission, mais qui n'était pas motivée par la loi. C'était une soumission qui était motivée par la bonté qu'il avait expérimentée de Dieu. Et on voit là le premier but de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est l'attachement à son nom, c'est l'attachement à sa personne. C'est pour ça que j'espère que plus vous marchez avec Dieu, plus vous êtes attaché à lui. La Bible nous dit, en psaume 145, 9, regardez avec moi, c'est-à-dire que non seulement il nous bénit, mais en plus, le fait qu'il nous bénisse a un impact sur nous-mêmes. Dieu nous dit, en psaume 145, 9, « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Il est dit dans un autre passage de la Bible que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc, si Dieu fait des actes de bonté envers tous, et moi, personnellement, je me souviens, quand je n'étais pas sauvée, j'avais déjà expérimenté Dieu. Je ne savais pas que c'était lui, mais je me souviens d'avoir été au bénéfice de sa bonté. Je me souviens que je ne le connaissais pas et il m'a fait sortir de la dépression. Mais vous savez quoi? Je ne savais pas que c'était lui. Et je me souviens très bien que j'étais vraiment dans un endroit de ma vie qui était très difficile. Et je ne pouvais en parler à personne. Mais je me souviens qu'il est intervenu. Et ça, c'est conformément à ce verset qui dit « Dieu est bon envers tous ». Alors, on a le droit de se poser la question, mais si Dieu est bon envers tous, que sa bonté me fait que je m'attache à lui, est-ce que tous s'attachent à lui? Ben, de toute évidence, non. On peut constater que toute la planète, tous les petits enfants de la Terre, comme dirait Mireille Mathieu, ne sont pas attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi les gens ne s'attachent pas à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas réalisé que Dieu était une personne. Très souvent, les gens croient que Dieu est un rituel. C'est-à-dire qu'il suffit que je vienne faire mon petit... par exemple, il suffit que je vienne ce dimanche et puis ça va. C'est bon, c'est comme ça. Dieu, c'est ça. Il est juste content que si je m'assois sur la chaise et c'est tout. Ou alors d'autres considèrent que Dieu est une philosophie. Non, mais c'est une pensée, très cher. C'est un style de vie. C'est une forme de... C'est une pensée. D'autres pensent que c'est une force. C'est juste une force. Mes amis, et puis d'autres pensent qu'il n'existe pas. Mais mes amis, Dieu est une personne. Et quand je dis une personne, je dis, attends, tu ne réduis pas un peu Dieu? Non, la Bible nous dit clairement que Dieu est un esprit. Et on voit ici qu'il a une âme. On voit que Dieu a une âme. Et Dieu a un corps, parce qu'on parle de la main de Dieu. Alors, ce n'est peut-être pas le même corps que nous, mais Dieu est une personne. Et entre autres, on l'a vu manifesté par son Fils. Mais Dieu est une personne. Voyez-vous, si on ne réalise pas que Dieu est une personne, alors c'est vrai que ça va être très difficile de le reconnaître derrière ses actes de bonté. Et c'est ce qui s'est passé quand je n'étais pas sauvée et que Dieu a utilisé de bonté envers moi. Je n'ai pas pu le reconnaître, tout simplement parce que je ne savais pas qu'il existait. Je ne savais pas qui il était. Et on voit, j'ai vu l'acte, mais je n'ai pas reconnu la personne. J'ai vu l'acte et je me suis arrêtée à la personne. Et c'est pour ça que vous avez peut-être tous eu des expériences où vous avez vu des gens prier, Dieu a répondu, mais vous savez, on n'a jamais vu cette personne s'attacher à Dieu. Pourquoi ? Parce que cette personne n'a pas réalisé que Dieu est une personne. C'est-à-dire que cette personne n'a pas réalisé qu'il y a une relation. Beaucoup de chrétiens ont un rapport à Dieu qui n'est que la loi. C'est-à-dire, tu fais ci, tu ne fais pas ça, tu viens. Mais ils n'ont pas une relation de cœur. Et c'est là que la bonté de Dieu intervient encore, mes amis. Parce que voyez-vous, la première bonté, une des premières fonctions de la bonté, c'est que quelqu'un qui le connaît va s'attacher à lui. Beaucoup plus, il y a des liens qui vont se faire. Mais la personne qui ne le connaît pas, il y a une chose que la bonté va faire pour elle, si celui qui connaît son Dieu accepte de le faire, c'est-à-dire de témoigner de cette bonté. Mes amis, le Seigneur, regardez ici en Marc 5, 19. Le deuxième but de la bonté, c'est que ceux qui le connaissent partagent cette bonté avec les autres. Afin qu'au lieu que les gens s'arrêtent à l'acte, ils puissent regarder un peu plus loin et dire « Mais attends, il y a quelqu'un derrière. » Quand je ne connaissais pas le Seigneur, il est arrivé certaines choses et j'ai vraiment cru, parce que je ne savais pas qui, écoutez bien, parce que je ne savais pas qui, j'ai accusé Dieu au lieu d'accuser le diable. Et ça m'a tenu éloignée pendant des années, parce que personne ne m'avait dit que Dieu n'était que bon. Personne n'avait pu, et quand la bonté de Dieu s'est manifestée dans ma vie, je n'avais pas la parole, je ne savais pas, donc je me suis arrêtée à l'acte et je n'ai pas pu m'attacher à Dieu. Regardez avec moi Marc 5, 19. Il nous est dit quoi ? Ici, c'est quoi ? Ici, il y a quelqu'un qui avait été, délivré. C'était un démoniaque qui avait été délivré. Et alors, il voulait rester attaché au Seigneur. Il a dit, où est-ce que je peux te suivre ? J'irai là où tu iras. Je veux rester avec toi. Il y avait un lien, un vrai lien, parce que cet homme avait expérimenté la bonté de Dieu. Mais ce que j'ai trouvé intéressant ici, c'est que Jésus ne lui a pas dit, tu sais quoi, viens, suis-moi, on va rester tous les deux, toi et moi, je t'aime Seigneur, et puis on va faire un club, on sera tous les deux, voilà. Non, Jésus ne lui a pas dit ça, il lui a dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. C'est-à-dire que Jésus lui a dit, tu sais quoi, avec la bonté que tu as expérimentée de moi, raconte-la à quelqu'un d'autre. Fais-la passer à ton voisin. Notez, il lui a pas dit, tu sais, écoute, tu vas leur dire combien tu as été béni. Oh là là, tu vas leur dire, tu es béni, je suis béni. Non. Il ne lui a pas dit non plus, rentre chez toi et vis bien avec ta femme, tes chiens, ton canari, tes enfants. Non, il a dit, va dans ta maison, oui, c'est-à-dire, va vers les autres, va vers les tiens, il le dit, et raconte tout ce que, quoi ? Pas tout ce que tu as eu, tout ce que le Seigneur a fait. Est-ce que vous voyez la différence ? C'est-à-dire que la bonté de Dieu est faite pour nous attacher à Dieu. Mais la bonté de Dieu ne doit pas s'arrêter à nous et notre petit attachement à Dieu. La bonté de Dieu est faite pour que quelqu'un sache qu'il est bon. La bonté de Dieu est faite pour que quelqu'un sache qui il est. Et je crois que c'est un des plus grands défis de l'Église du 21e siècle. C'est-à-dire que les chrétiens osent dire, mais oui, je le connais, il est bon. Oh oui, il est bon. On voit partout dans les Écritures, quand on regarde les actes, on voit que l'Église témoignait. De partout, elle témoignait. Et mes amis, il est temps que les chrétiens disent, tu sais quoi ? Mon Dieu, il est bon. Il est bon. J'ai aucune peur de l'approcher. Il n'y a rien en moi qui se cache de lui. À vrai dire, je sais qu'il n'est absolument pas dans le rituel. Je pourrais même ne pas faire qu'il m'aimerait encore. Quand vous approchez, quand on approche Dieu, est-ce qu'on approche une personne ? Est-ce que quand je loue le Seigneur, je suis juste en train de chanter une chanson ? Ou est-ce que tout en moi se présente en lui ? Et voyez-vous, Dieu usera de bonté et en usera encore. La Bible nous parle à un moment, il est dit, il a usé de bonté envers moi. Mais la bonté que l'on a découverte de Dieu ne peut pas s'arrêter à nous. Trop de gens se comportent comme Jonas. Jonas est quelqu'un qui a littéralement cherché à cacher, a littéralement essayé, s'est arrangé, non. Jonas a essayé que les gens n'expérimentent pas, c'est pas français ce que je dis, que les gens n'expérimentent pas la bonté de Dieu. Dieu lui avait dit, va dire à ces gens qu'ils se détournent de leur voie parce que je les sauverai. Et Jonas n'a pas voulu répondre à son appel. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas, il craignait que Dieu soit trop bon. Et en Jonas 4:2, je vais vous le lire, il implora l'Éternel et il dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, en désobéissant. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal. » C'est-à-dire que Jonas avait essayé de cacher à ceux qui en avaient besoin la bonté de Dieu. Parce que si vous avez un peu de religieux en vous, mes amis, et vous avez très vite le savoir, vous vous attendrez à ce que les gens payent pour leur salut. Vous vous attendrez à ce que, tu sais quoi, t'as mal fait, et ben voilà. Alors oui, il y a des conséquences au péché, bien sûr il y a des conséquences, mais vous savez, c'est pas à nous de menacer les gens avec ça. Si les gens doivent retenir quelque chose, c'est que Dieu est bon. Dieu sera toujours là pour eux, où qu'ils soient dans la vie. Et ça, mes amis, on a la responsabilité. Nous qui connaissons la bonté de Dieu, on a cette responsabilité de faire passer le message. Dieu est bon, le Seigneur est bon, et ce n'est pas du gavage d'oie. Vous savez, si vous réalisez que derrière la bénédiction, vous avez une personne et qu'en face, vous avez une personne, mes amis, vous allez être concernés par les faire se rencontrer l'un et l'autre. Annoncer les seigneurs n'a rien à voir avec nous, mais a tout à voir avec l'autre, avec Dieu et avec l'autre. Et c'est ça que je voulais vous encourager à faire. Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont bénis. Qui a vu, qui a prospéré, et quand je dis prospéré, je parle d'argent, mais pas que. Qui dans sa vie, depuis qu'il a rencontré le Seigneur, et si vous n'avez pas, ben ne levez pas les mains, hein, on n'est pas là pour juste faire plaisir à ceux qui prêchent. Est-ce que les personnes qui connaissent le Seigneur, depuis qu'elles ont rencontré le Seigneur, ont prospéré dans différents domaines de leur vie ? Vous vous rendez compte ? Ce qu'on a raconté ? Et c'est ça que je voulais. Parce que très souvent, on a tendance à garder ça pour soi. Souvenons-nous du temps où on ne connaissait pas le Seigneur. Et c'est ça que je voulais apporter. Et tout ça, ce message, à vrai dire, est venu parce que, Maryse, où es-tu ? Parce que Maryse, oui, a demandé au pasteur de rendre témoignage. Et puis très souvent, on entend un témoignage dire « Oh, bon, ben, c'est bien, c'est gentil, hein, c'est gentil, Dieu a été gentil. » Non, il n'a pas été gentil. Oui, il est gentil, mais vous savez, la bonté ne veut pas dire que gentil, d'ailleurs. Ça, c'est une forme. La gentillesse est une forme de bonté, mais la bonté ne se résume pas à la gentillesse. Quoi qu'il en soit, Marie a dit « Eh ben, je voudrais rendre témoignage. » Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Eh ben, tu sais quoi, il est temps que les églises et que les chrétiens voient l'impact. » Que ce n'est pas juste dire une gentille histoire. Ce n'est pas juste dire « Oh, ben, Dieu a été gentil. » Non, c'est parler de qui est Dieu. Donc, Marie.
Bonjour. Alors, je vais rendre témoignage de la bonté de Dieu. Je ne connaissais pas le message, mais bon, ça va dans ce sens. Dimanche dernier, on a eu deux témoignages de personnes qui allaient changer d'appartement, qui allaient déménager. Moi, je vais vous apporter mon témoignage de mon déménagement. C'est terminé. Alors, il y a 6 ans en arrière, je commençais à avoir trop chaud là où j'étais. Mon appartement est au 6e étage, il faisait chaud, j'ai une terrasse, il faisait chaud aussi, je ne pouvais plus l'utiliser. Et puis au fur et à mesure, je me suis mis à couper tous les dimanches, quand je passe dans la rue, à prendre le prospectus qu'il y avait devant les agences immobilières des appartements. Et le dimanche après-midi, je découpais ce que je voulais. Je semais indirectement une semence, je découpais, je voyais le prix, je voyais à quel étage c'était, dans quel quartier. Bon, et je vais la faire courte, ça a été une histoire de 3 ans, tranquillement. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des inondations dans mon appartement, j'avais les ouvriers, voilà, un petit peu assez. Et un beau jour, au mois d'octobre, je dis au pasteur Elisabeth, « Aïe, je suis décidée, je vais quitter mon appartement, je vais en chercher un autre, c'est fait. » Mais c'était fait au fond de moi-même, j'étais prête. Alors je demande bien sûr au Seigneur, « Seigneur, je voudrais un appartement au 2e étage, avec 2 balcons, dans le quartier Libération. » Parce que j'aime ce quartier, pour moi c'est très pratique. Au 2e étage, hein. Voilà. Et puis bon, je cherchais. Bien sûr, j'ai mis mon appartement en vente. Ça s'est fait très rapidement, en 1 mois. Merci Seigneur, oui. Et puis de là, bon, mais il y avait quand même des vicissitudes, hein, des petits accrochages, hein, où j'allais dormir, qu'est-ce que j'allais faire. Et je veux dire que la bonté du Saint-Esprit de Dieu m'a guidée en permanence. D'abord, j'ai eu un petit, comme dans le dos, un petit genou qui me poussait. Mais vas-y, sous-entendu, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et j'étais seule dans cette aventure, mon aventure, ma terre promise, je l'appelle. Bon, là, je suis enchantée. Bon, alors, je continue. Et bon, je suis allée, j'ai loué un studio pendant 3 mois. Je suis venue ici, enfin, il y a eu quand même beaucoup de vicissitudes. Et un beau jour, qu'est-ce que je vois? Alors, bien sûr que je visitais les appartements. C'était toujours premier étage, 3e. Non. Moi, je voulais un appartement, 2 pièces, au 2e étage, ascenseur, quartier Libération, et surtout, côté est. Il y en a qui le savent là-bas. Et surtout côté est, parce que je ne voulais plus trop de soleil. Et j'étais commencé à dire, oh là là, ce soleil, mais j'en ai assez, ou je peux plus le voir. Enfin, je râlais. Et c'est pas trop bon, hein. Bon. Et puis bon, ça s'est fait. Voilà, un jour, je trouve donc, je vais visiter un appartement, et vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, si c'est le bon appartement. J'ouvre, hop, dans mon cœur, aïe, que l'entrée, c'était ça. Alors je dis à la personne, bon ben c'est, je veux voir. Et où il se trouvait? Quartier Libération, avenue 2e étage, à l'est, 2 balcons. Merci Seigneur. tout au long de ce cheminement qui a duré quand même 5 à 6 mois, il y avait la bonté du Seigneur avec moi. Parce qu'en tant qu'être humain, même chrétienne, des fois, ouf, ça n'allait pas. Des fois, je remontais. Des fois, je disais, donne-moi la force parce que je ne vais pas y arriver. Bref, en rentrant, je savais, écoutez bien, les couleurs que je devais mettre dans l'entrée, sur les murs, quel mur je devais casser, à tel point que l'ancienne propriétaire, elle me disait, mais vous connaissez tout ça, mais vous êtes... C'était, mais alors, clair, net, mais précis, les meubles, les ci, les ça, parce que bon, j'avais plus rien du tout, hein. J'avais tout renouvelé. 2019. Bon. Ceci étant dit, les travaux ont pris un peu plus de temps pour des mensurations qui n'allaient pas. Au lieu de terminer fin mars, on terminait fin mai, début juin. Et je me suis mis à dire, ouh là là, c'est trop long. J'habitais, il y avait de la poussière, il y avait à faire du ménage, il y avait les ouvriers qui venaient. Je partais le matin à 8 heures, je rentrais le soir à 6 heures. Bon. Ma fille m'avait laissé les clés de sa maison parce que sans ça, où j'allais? Bon, ça, c'est d'autres choses. Et je commençais à dire, c'est long quand même, hein, c'est... les mensurations, c'est pas prêt, etc. Et d'un seul coup, j'entends une voix audible qui me dit, le temple ne s'est pas fait en un seul jour. Aïe, aïe, aïe. Alors là... D'un seul coup, la correction du Seigneur a fait que je suis devenue toute, bon, pas tremblante, mais bon, oh, il est en train de me corriger parce que je suis en train de nouveau de murmurer, de me plaindre que ça n'allait pas si vite. Alors bon, tout de suite, hein, je me suis repentie, je demandais pardon au Seigneur parce que bon, ça, il reprenait son enfant, mais Dieu est bon, bonté et compatissant. Et donc là, j'apprenais, il m'a fait apprendre beaucoup de choses pendant ces moments de ces 6-7 mois. Bon, donc tout a été fait, merci Seigneur. Et maintenant, je suis rentrée dans mon appartement, je vis dans mon appartement, et je sais déjà que ma maison est ouverte, ça sera une maison de prière. Voilà, c'était pour vous dire que ça a pris du temps. J'ai été repris par le Seigneur, mais tout le temps, il a été là, tout le temps, à me guider à droite et à gauche, à voir tous les travaux, parce qu'il y avait beaucoup de travaux, tout a été refait. Mais j'ai mon petit appartement de 2 pièces, au 2e étage, avec 2 balcons, côté est, j'ai le soleil 3 heures le matin, et puis après, je laisse le soleil à d'autres personnes. Mais ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est qu'en même temps, dans toutes ces facettes que nous voyons de notre Dieu, qui est bon et compatissant, il a aussi la facette humoristique. Et là, vous savez le nom de mon immeuble ? Je vais vous le dire. Le Beau Soleil.
Amen, amen. Non mais écoutez, vous voyez, hein, ça édifie, non, ça montre combien Dieu est bon. Voilà, et j'espère que ça vous dope dans votre foi. Qu'est-ce que vous êtes en train de croire pour cette année? Pasteur, tu veux...
Merci. Merci beaucoup, Élie. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez déménager, assurez-vous d'en parler au Seigneur. Et puis ensuite, soyez précis. Hein. Vous avez entendu ça? Soyez précis. Pour terminer, nous allons prendre le pain et le vin. Et justement, je vous lis ce verset dans Hébreux chapitre 8, verset 6. Il est dit que Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur. Supérieur à quoi? À ceux des sacrificateurs de l'Ancien Testament, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. L'alliance sous laquelle nous sommes est plus excellente que celle que les Juifs ont, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc vraiment, nous pouvons... Ce que nous, le Seigneur nous a appris à faire, c'est à nous rappeler. Il a mis des marqueurs dans notre vie, par exemple des cérémonies, comme la cérémonie du baptême, comme la cérémonie du mariage, etc., pour nous rappeler qui il est. Mais également, le temps du pain et du vin, c'est pour nous rappeler que nous avons quelqu'un qui est le garant des promesses que Dieu nous a données. Et quand quelqu'un croit que les promesses ne dépendent pas de moi si elles s'accomplissent, moi je vais croire, mais qui est celui qui va les accomplir ? Celui qui nous a fait entrer dans une alliance qui est supérieure. Donc ma question est, à quel niveau de vie veux-tu vivre ? Qu'est-ce que tu acceptes de croire de ton Dieu ? Est-ce que tu acceptes de croire que tu ne peux recevoir que ce que tu gagnes dans la vie ? Est-ce que tu crois que tout ce qui vient dans ta vie, c'est ce que tu peux payer avec ton salaire ou avec des revenus que tu as ? Ou est-ce que tu acceptes de croire que tu peux recevoir plus que cela parce que Jésus est le garant ? Jésus est celui qui s'assure que ce qu'il nous a promis, ça va s'accomplir. La question est, que crois-tu ? Comme on l'a entendu, est-ce que tu crois dans sa bonté ? La richesse de sa bonté. Moi, je ne sais pas, mais ce qui vous concerne, moi, j'ai décidé que j'allais connaître autant de Dieu que ce qu'il m'est possible de connaître de ce côté-ci du voile. J'ai décidé que je n'allais pas connaître Dieu comme du goutte à goutte, quelqu'un qui me donne telle chose et telle chose. Je veux connaître tout ce qu'il m'est possible de connaître ici-bas. Ce qui veut dire que j'ai décidé, je vais croire tout ce qu'il me dit. Alors, nous voulons nous rappeler, en prenant le pain et le vin, que le sang de Jésus a été versé afin que rien ne nous empêche de recevoir les promesses de Dieu. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit, hein ? Nous avons été mis en règle avec Dieu. Je ne pouvais pas me mettre en règle. C'est l'initiative de Dieu. Il s'est débrouillé pour me mettre en règle avec lui. Le sang a été versé et ce sang me rend à même de recevoir les promesses de Dieu. C'est le sang qui me qualifie pour voir les promesses de Dieu. Et le corps de Jésus est celui qui me rappelle que le sien, son corps, le pain, me rappelle que son corps a été brisé afin que quand les promesses de Dieu arrivent dans ma vie, eh ben je puisse en profiter. Combien de gens ont tout sauf la santé ? Et Dieu dit non seulement, je veux que tu aies plus que ce que tu as besoin, de manière à ce que la bénédiction déborde sur les autres. Mais je veux que tu sois en bonne santé pour en profiter. Alors tous ceux qui souhaitent célébrer le pain, le vin.
Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, Seigneur, pour ce pain, Seigneur, qui est ton corps, qui a été brisé pour nous, Seigneur, la croix du calvaire. Et nous savons, Seigneur, que nous avons eu, Seigneur, la bonne santé, Seigneur, la croix du calvaire, que tu nous as guéris par tes meurtrissures. Tu as dit que tu souhaites que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous prenons notre guérison par la foi, mon Dieu. Et te remercions, Seigneur. Nous nous rappelons ce que tu as accompli à la croix du calvaire, Seigneur. Tu as tout accompli, comme tu as dit, Seigneur. Merci pour ce pain, Seigneur Jésus. Merci pour ton corps, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
Merci. On va aller de l'autre côté maintenant.
Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix et que tu nous as ouvert la porte pour avoir une relation de famille avec notre Père. Amen.
Tous ceux qui souhaitent participer au pain, au vin, si ça a un sens pour vous, approchez-vous. Approchez-vous avec vos enfants également, parce que la Bible nous dit que le sacrifice a été fait pour nous et notre maison. Approchez-vous et puis servez-vous, et nous mangerons et boirons ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est-à-dire que toutes les promesses que j'attends dans ma vie, c'est dans ce sens-là. Jésus est le garant. Les promesses que je reçois dans ma vie ne dépendent pas de mon porte-monnaie, ne dépendent pas des connexions, ne dépendent pas de mes connaissances, dépendent uniquement de ce que je crois que Dieu est capable de faire. Les enfants se servent également, ils apprennent qu'ils sont bienvenus à la table du Seigneur. Gloire à Dieu. Prenez le pain, prenez le vin. Avance, Anna, avance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On se rappelle, il est le garant. Le Seigneur est le garant. Très souvent, on pense à trop prendre sur nous-mêmes. Hein. Non, il est le garant. Après, ouais, tu peux changer de fil. Hein. Merci. Gloire à Dieu. Dieu nous veut en bonne santé. Et il nous sort de n'importe quelle situation. Nous en avons la promesse. Mangeons en nous rappelant que la santé nous a été offerte. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis, pour pouvoir recevoir les bénédictions, il fallait qu'on soit pardonné. Il ne fallait pas que le péché nous empêche de recevoir les promesses. Ça aurait été horrible que Dieu nous fasse des tas de promesses, mais on est incapable de les recevoir à cause du péché. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le sang a été versé afin que rien ne puisse nous empêcher de recevoir. Quelles sont les promesses que Dieu vous a faites? Il y a des nouveaux logements, il y a des promotions au travail, il y a des voyages que le Seigneur a, il y a des connexions avec des personnes. Il n'y a que par la foi qu'on va pouvoir les recevoir. Buvons ensemble. Tiens, attends. Alors, je vous souhaite bonne méditation sur la bonté de Dieu pendant cette semaine. Et puis surtout, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un d'autre. Racontez ce qu'il a fait. Vous êtes bénis. Bonne semaine.